Double face avec Valérie Augier pour aller au-delà des apparences le dimanche de 11h à midi.
15 ans de carrière déjà pour notre invité. Oui. 15 ans d'humour en professionnel et un nouveau spectacle Société Écran. Bonjour Thomas Vidal.
Bonjour Valérie, on commence par un coup de vieux, ça fait du bien.
Et justement, c'était la question d'après. 15 ans à peine, 15 ans déjà, quel ressenti par rapport à ce temps déjà? 15 ans.
Bah, alors d'une part, ça paraît être passé en un clin d'œil. J'ai l'impression que c'était vraiment il n'y a pas très longtemps que je faisais des matinales dans cette radio, alors que c'était en 2013, je crois. Et d'autre part, oui, non, ça fait, ça pose quelque chose, 15 ans, quoi. J'ai l'impression que il s'est passé quand même beaucoup, beaucoup de choses, que j'ai vu passer beaucoup de monde et que maintenant, quand des humoristes commencent, qui ont 10, 15 ans de moins que moi, quand certaines me disent qu'ils ont grandi en regardant mes vidéos, oui, ça me fait très bizarre. Je ne me sens pas vieux à l'intérieur et pourtant je le suis un peu.
Alors qu'est-ce qui a le plus changé sur ce parcours pour Thomas Wiesel ?
Là où je suis très reconnaissant, c'est que j'ai l'impression que j'ai eu un parcours assez organique dans le sens où ça a grimpé gentiment. Je n'ai pas eu un coup d'éclat qui était prématuré qui a fait que je me suis retrouvé un peu en apnée avec des choses que je ne savais pas gérer. Les quelques premières années ont été progressives. Et là, depuis une dizaine d'années, j'ai atteint un plateau qui est très agréable, où les gens viennent voir mon spectacle, où je n'ai pas l'impression d'avoir déjà basculé chez les has-been. Peut-être que pour certains auditeurs plus jeunes, je suis has-been. Mais il y a un truc de plaisir dans la durée qui n'est pas désagréable et d'avoir l'impression que je peux continuer de faire ça. Donc je pense que ce qui a le plus changé, c'est que maintenant, je me repose peut-être un tout petit peu sur mes lauriers dans le sens positif du terme, si ça existe. C'est-à-dire que pendant longtemps, j'avais l'impression que ça pouvait s'arrêter demain. Et là, je me dis que ça peut s'arrêter après-demain. Mais j'ai gagné quand même un jour où je me dis, là, il y a en tout cas un ou deux spectacles où il y a suffisamment de gens qui viendront me voir. Donc, il y a une forme de sécurité qui a peut-être changé.
Et ça tranquillise la sécurité ?
Oui. Oui, parce que j'ai moins l'impression de devoir courir après le public, j'ai moins l'impression de devoir m'adapter à toutes les modes, de devoir, comme c'était un peu le cas au début de ma carrière, me faire remarquer, donc parfois choquer, donc parfois aller plus loin que ce que je pensais vraiment pour peut-être un peu attirer l'attention. Et ça, je pense que ça m'a beaucoup aidé sur ces dernières années où j'ai l'impression que la façon de commencer une carrière a beaucoup changé de par la porte d'entrée qui est devenue 100% les algorithmes et les réseaux sociaux. Et je pense que si j'avais dû me construire un public à ce moment-là, j'aurais dû suivre toutes ces modes-là, j'aurais dû passer à ces vidéos de moins d'une minute par lesquelles passent tous les nouveaux et les nouvelles humoristes. Et peut-être que ça aurait façonné ma façon de faire de l'humour. Donc je suis content d'être passé avant et d'avoir pu un peu me construire sans cette influence extérieure qui quand même formate pas mal ce qu'on voit, parce qu'il faut que tout soit consommable en très peu de temps. Donc ça, je suis très reconnaissant d'être arrivé à l'époque où c'était déjà un tout petit peu les réseaux, mais c'était Facebook, où on avait le droit de mettre des vidéos de 5, 6, 7, 8 minutes. Mes premières vidéos OneFM, LFM, on pouvait mettre la chronique en intégralité et ça marchait, tandis qu'aujourd'hui, ça paraît inconcevable de regarder sur son téléphone une vidéo de 5 minutes. Donc c'est peut-être ça le plus gros bouleversement dans ce petit métier d'humoriste. Et donc je suis assez content d'être un ancien à ce point de vue.
Un ancien d'il y a 15 ans, à peine 15 ans déjà. Et Mathieu Aix-Henry, qui était notre invité dernièrement dans Double Face, racontait la première de Thomas Wiesel à Champéry, à Maxi Rire, en disant « Laurent Gérard n'aimait pas les premières parties, mais finalement, il a accepté Thomas Wiesel, qui a joué dans des conditions, on va dire, rock'n'roll, quoi. »
Oui, alors...
Il y a un souvenir de cette première scène.
Oui, je me souviens, parce que j'avais fait le trajet jusqu'à Champéry, qui est magnifique, ce trajet, mais c'est quand même 2 heures de transport public. Et quand j'arrive en haut, on me dit « La prod de Laurent Gérard ne souhaite pas de première partie, donc peut-être que tu joues pas. » Je suis là, bon, d'accord, c'était pas moi qui m'étais imposé, donc c'est le festival qui m'avait invité, mais il y avait peut-être des problèmes de communication. Je sais que Laurent Gérard n'est pas le plus grand fan du stand-up, n'est pas le plus grand fan des jeunes humoristes, et le spectacle de Laurent Gérard est très long, et donc je pense que c'est aussi pour ça que les premières parties s'y prêtent assez peu. Et au final, je crois que Mathieu Aix-Henry et Maxime Delez de Maxi Rire ont réussi à négocier que je fasse 5 minutes au milieu des instruments du band de Laurent Gérard. J'étais quasi sûr qu'il n'allait pas regarder, donc je me suis défoulé un petit peu sur les imitateurs, sur l'âge des personnalités qu'il imite, sur l'âge du public, donc je m'étais un petit peu vengé à travers mes blagues, mais ça c'est effectivement le Thomas d'il y a 12-13 ans, donc j'étais un tout petit peu plus impertinent.
Ah, ça, c'est noté. On y reviendra, la pertinence, Thomas Wiesel.
Double face, Valérie Augier.
Thomas Wiesel et un nouveau spectacle qui tourne hein, déjà depuis le début d'année, Société Écran. Juste entre parenthèses, vous l'avez remarqué tout à l'heure, certains humoristes maintenant qui arrivent dans le monde du spectacle vous font la remarque qu'ils vous regardaient quand ils étaient petits. Ça fait quelle impression, ça?
Ben, ça fait bizarre, tout comme parfois les gens qui me semblent pas beaucoup plus jeunes que moi me disent « mes parents t'adorent ». Et donc, c'est pas vexant, en tout cas pas, mais ça fait un peu bizarre effectivement parce que j'ai été longtemps le petit nouveau, le petit jeune. Et petit à petit, j'ai réalisé qu'on m'appelait de moins en moins comme ça et qu'on qualifiait plutôt d'autres personnes de ces adjectifs-là. Et après, j'ai réalisé que je devenais peut-être l'humoriste plutôt des trentenaires, des quadragénaires. Et j'ai la chance d'avoir un public qui peut vieillir encore pas mal avant de plus être là, ce qui n'est pas peut-être le cas de tous les artistes. Donc j'ai un peu de marge. Mais c'est aussi pour moi le signe peut-être que les gens me suivent depuis longtemps. Et ça, c'est plutôt gratifiant parce que je me dis, si les gens, ça fait 15 ans qu'ils m'écoutent, forcément, ils n'ont pas 20 ans aujourd'hui. C'est aussi, je me dis, un joli compliment de me dire que je n'ai pas encore lassé certaines personnes et que je me renouvelle suffisamment pour qu'on ait envie de revenir me voir.
Et ça, se renouveler, donc cette peur surtout de se répéter, elle est constante?
Oui, parce que je pense qu'en humour, comme peut-être dans aucun autre art, le plaisir est surtout à la première fois qu'on entend une blague, la première fois qu'on voit un spectacle. Je pense qu'un album de musique qu'on aime bien, on peut l'écouter des centaines de fois, un concert d'un artiste qu'on aime bien, on a presque envie qu'il fasse plus ses vieilles chansons que ses nouvelles. Un humoriste, il y a quelques rares exceptions où on a tellement de plaisir à revoir les hits que ça peut être des anciens trucs, mais sinon on veut voir les nouveautés des humoristes. Donc on a ce truc de... une fois qu'un spectacle a tourné un petit peu, on nous demande quand est le prochain. Ce qu'on me demande déjà, alors que celui-ci a 4 mois d'existence. Donc oui, il y a une espèce de prime à la nouveauté, il y a une espèce d'incitation à tout le temps écrire. Moi, j'ai aussi un truc interne où je me lasse assez facilement de ce que je fais moi-même. Donc ça ne me dérange pas tant que ça, de ne pas jouer éternellement les mêmes choses. Je sais qu'à une époque, justement avant Internet, les humoristes pouvaient tourner 10 ans, 15 ans avec un même spectacle. Ils faisaient un ou deux plateaux télé où ils dévoilaient 5 minutes, mais le reste du spectacle était inédit jusqu'à que le DVD sorte. Alors maintenant, effectivement, les rythmes ont changé. Et en Suisse, moi je suis à un spectacle tous les 2 ans à peu près. C'est un rythme qui me convient, parce que je mets à peu près 1 an à l'écrire. Ce qui me permet de le tourner pendant 1 an et puis de faire aussi des petites pauses entre deux. Donc à ces rythmes-là, j'ai l'impression que je vais tenir.
Ça veut dire que ce nouveau spectacle, Société Écran, il n'est pas évolutif. Il est écrit pratiquement à la réplique près.
Alors il est principalement écrit à la réplique près. Après, il y a des petits bouts qui bougent. Il y a simplement, vu que c'est un spectacle humain et vivant, des choses que j'oublie certains soirs, dont je me rappelle d'autres soirs. Ça peut arriver. Il y a des choses dont je me lasse. Là, j'arrive à la fin d'une première vague de spectacles et cet été, j'en ai un peu moins. Donc je vais profiter de réécrire des bouts qui me plaisent moins ou qui ont un peu moins bien vieilli et que j'aimerais améliorer. Donc il y a quand même des bouts qui changent. Après, d'un soir à l'autre, pas tellement, mais d'une semaine à l'autre, d'un mois à l'autre, oui. Et il y a, depuis 2-3 spectacles maintenant, des petits bouts où je discute avec le public qui ne sont pas écrits et qui sont des petites respirations aussi pour moi et des petites bulles d'imprévus dans la soirée parce que je trouve que ça invite à avoir une routine un peu lénifiante si on joue tous les soirs la même chose à la virgule. Moi, je ne suis pas un interprète qui a spécialement du plaisir à jouer très très bien un truc écrit. J'aime bien quand c'est nouveau, j'aime bien quand je découvre que ça marche. Donc, quand je n'arrive pas à rajouter des blagues, j'ai au moins le petit truc de discussion avec le public où je me dis, là, je dois être drôle, sans filet. Et ça me permet de me rester concentré et pas de basculer dans un autopilote où mon texte défile dans ma tête et je ne sais même plus où je suis. Ce qui peut arriver dans les longues tournées, ce qui est un phénomène que j'essaie à tout prix d'éviter. Parce que je ne suis pas assez bon comédien pour faire semblant d'être investi quand je suis ailleurs dans ma tête.
Et ça veut dire, Thomas Wiesel, tester sur le public de futurs ajouts de ce spectacle Société Écran?
Oui, alors... parfois, il y a des blagues, effectivement, on se demande si elles vont rester ou pas. Et puis, le verdict du public peut être assez abrupt et la blague sera là qu'une seule fois. Parfois, certains humoristes, à la fin d'un spectacle, vont tester un petit bout du prochain ou un passage télé, ça je fais pas tellement. Donc le prochain spectacle n'est pas encore en cours, j'ai aucune idée de quoi il va parler, mais c'est vrai que je teste des petits bouts d'amélioration de ce spectacle qui, à mon avis, ne sera pas terminé tant que je vais pas le filmer en fin de tournée. Et puis après, une fois qu'il est filmé, ben, je le joue plus et je passerai au suivant. Mais je pense que c'est une des choses qui me permet d'avoir le moins de lassitude, c'est le fait que j'ai la liberté de pouvoir tout changer si je le veux. Alors souvent j'ai la flemme, mais rien que la possibilité de pouvoir le faire, ça permet d'éviter l'impression d'être enfermé dans un carcan de routine et d'obligation.
On va revenir à la base de Société Écran, Thomas Wiesel. C'est l'utilisation de vos écrans qui a créé l'envie de ce spectacle.
Oui, c'était une interrogation sur comment est-ce que je passe mon temps dans une journée lambda, qui est un peu la poursuite de mon spectacle sur le travail, où j'avais réalisé que je passais une bonne partie de ma vie à travailler, comme beaucoup de gens. En explorant ce chapitre-là, j'ai réalisé que le point commun entre le travail et les loisirs et la vie privée, c'est qu'une bonne partie des deux, dans mon cas et dans le cas de pas mal de gens qui ont des jobs de bureau, se passe sur des écrans. Et donc, si j'associais les deux, c'est-à-dire toutes les heures que je passe à travailler sur un appareil électronique et toutes les heures que je passe à me divertir sur les mêmes écrans, une bonne partie de mon temps éveillé était passé devant les écrans. Et donc, ça part de ce constat qui est peut-être un peu négatif, mais globalement plutôt neutre, de je passe tout mon temps là-dessus. Pourquoi? Comment? Qu'est-ce que ça a comme effet? Qu'est-ce que j'observe? Qu'est-ce que je lis? Quels sont les dangers? Quelles sont les possibilités? Et donc, c'était un peu ça. C'est partir de mon utilisation, de voir que elle était quand même assez symptomatique d'une génération et d'une époque, de constater dans les transports, de constater autour de moi que j'étais parmi les plus atteints, mais de loin pas le seul et de loin pas le pire, et qu'il y avait une espèce de basculement de notre vie vers un monde virtuel et un monde de plus en plus normé, plateformisé, algorithmé, que l'Internet des débuts que j'ai connu il y a 20 ans n'est plus tout à fait le même qu'aujourd'hui, qu'on est vachement plus orienté, accompagné vers certains types de contenus. Et donc, c'était un peu l'envie de se poser des questions sur ce que ça implique et ce que ça change de notre vie quotidienne.
Concrètement, ça veut dire combien de temps d'écran quotidien pour Thomas Wiesel?
Alors, les statistiques de mes appareils me disent 8h30. J'ai jamais su vraiment si c'était vrai ou pas. Mais ça compte donc mon appareil professionnel et mon appareil personnel qui sont le même appareil. Donc c'est difficile pour moi de vraiment déterminer quand je travaille et quand je ne travaille pas. Mais entre le moment où je me lève et le moment où je me couche, j'aurais passé 8h30 sur les écrans.
Une désintox numérique de temps en temps ou pas?
Alors j'essaye, quand j'ai moins de travail, quand je suis en vacances, de diminuer. J'essaie plein de petites techniques pour passer moins de temps. J'en parle un tout petit peu dans le spectacle, mais j'ai acheté quelques gadgets, certains marchent, d'autres pas. J'ai ajouté des programmes pour essayer de me forcer à avoir un horaire de travail. Parce que dans ces métiers artistiques, il y a parfois aussi une grande liberté qui peut être fourbe. Et moi, je n'ai pas de collègues, je n'ai pas de patron, je n'ai pas de gens qui me disent quand je dois travailler, quand je ne dois pas travailler. Je n'ai pas forcément ce regard extérieur qui incite peut-être à ne pas glander. Et donc, j'ai réalisé que j'étais très, très bon pour négocier avec moi-même, que souvent je gagnais. Donc, c'était l'idée de me remettre un peu des règles et des limites qu'on a peut-être naturellement quand on a un job dans une entreprise et que je n'ai pas moi. Donc, j'ai maintenant des programmes qui me disent de 10h à 18h. Certains sites me sont bloqués, certaines applications ne sont pas accessibles directement. Il y a des comptes à rebours. Il y a toutes des choses qui font que mon cerveau doit consciemment décider d'arrêter de travailler. Alors que pendant longtemps, c'était quasiment automatique. Dès que j'avais un petit coup de mou, dès que j'avais l'inspiration qui venait pas directement, je pouvais faire une pause de 5 minutes qui durait 2 heures. Et donc ça, c'est essayer d'éviter tout ça. Donc j'ai l'impression que là, ça fait un an que je travaille sur ce sujet, que je me renseigne, ça a progressé un peu. Je n'arrive pas à savoir si mon temps d'écran a diminué parce que toutes les applications que j'ai ajoutées tourne en permanence pour bloquer les autres applications. Donc, mon temps d'écran est passé à 27 heures, ce qui n'est absolument pas possible, parce que même quand je dors, si vous voulez, l'application fonctionne. Donc, je ne sais pas si ça a diminué. J'ai l'impression que d'une part, ça a diminué et que d'autre part, ça a évolué dans le sens où je suis un peu plus en contrôle et c'est redevenu un peu plus un outil que j'utilise plutôt qu'une spirale dont je suis la victime. Et ça, c'est mon objectif d'ici la fin de cette tournée, c'est d'arriver un peu à être plus volontaire et plus ciblé dans mon utilisation des écrans. Je n'ai pas pour envie ni pour vocation d'arrêter totalement les écrans. Il y a trop de choses qui me plaisent, mais j'ai envie d'être un peu mieux discipliné et de réaménager dans ma vie des plages sans écran d'une part et des plages un peu de spontanéité, d'imprévu, des plages d'ennui, toutes des choses qui avaient un tout petit peu disparu dans ma vie à force de combler chaque petit moment de vide par Internet.
Justement, qu'est-ce qui vous plaît? Qu'est-ce que vous regardez? Qu'est-ce que Thomas Wiesel, consommateur d'écran, regarde?
Alors moi, j'ai énormément de centres d'intérêt qui se passent en ligne, c'est-à-dire que je suis accro à l'actualité. Ça, c'est une source quasiment intarissable de distraction, de divertissement et aussi de matériel pour mon travail. Donc, dans une journée lambda, je pense que je vais passer 3, 4, 5 heures à lire l'actualité.
À lire. Regarder, pas écouter. C'est pas audio, c'est pas vidéo.
Je suis un enfant de la langue écrite et c'est comme ça que j'aime bien consommer mon information parce que ça me permet de choisir le temps que je consacre à l'information. Si je veux creuser, je cherche un autre article. Mais je ne suis pas tributaire, comme en regardant le 19-30. Si le 19-30 a décidé de passer 3 minutes sur un sujet qui ne m'intéresse pas, alors si je le regarde en replay, je peux zapper. Mais si c'est sur un site de presse écrite, je peux fermer l'article et en ouvrir un autre. Donc c'est peut-être une obsession un peu de contrôle et une envie d'être moi-même mon rédacteur en chef qui décide un peu ce qui est intéressant ou pas. Et après, dans l'actualité, il y a un chapitre qui est peut-être mon grand talon d'Achille, c'est le sport, où je peux passer des heures et des heures à regarder, à commenter, à apprendre des choses, à lire des statistiques. Et donc, ça, c'est mi-chemin entre le travail et le loisir. Je pense qu'on est plutôt à 90% loisir et à 10% travail, parce que oui, ça m'arrive d'avoir des interventions dans des clubs de sport, et donc ça aide si je suis un peu documenté. Mais la plupart des sports que je regarde, c'est simplement parce que ça me fait du bien, parce que ça me fait plaisir. Et j'en fais aussi, ça parfois je dois le préciser, parce que les gens n'ont pas l'impression que c'est le cas, mais ça m'arrive d'aller faire du sport. Et ça, c'est pour moi peut-être un des meilleurs remèdes que j'ai trouvé pour justement déconnecter un peu, pour que mon cerveau arrête de constamment chercher de l'information, de la processer, d'essayer de classer ce qui se passe dans ma tête. Quand je fais du sport, je suis tellement... pas dans mon élément, parce que je pense que je suis pas quelqu'un qui est prévu pour faire du sport à la base, que je dois donner toute ma concentration sur ce que je suis en train de faire, et ça me permet vraiment de me vider la tête, d'avoir plusieurs heures où je pense pas à tout ça. Donc ça a aussi le sport, pour moi, une vertu à réussir à me déconnecter de tout ça.
Ça veut dire pas de podcast, pas de vidéo pendant que Thomas Wiesel fait du sport. C'est quoi d'ailleurs comme sport?
Basket principalement.
Ouais, donc c'est pas pratique le podcast.
Non, bah alors ça m'arrive parfois d'aller shooter tout seul et là c'est un des rares moments où je vais avoir un podcast dans les oreilles. Ouais. Mais sinon c'est pas une forme que j'apprécie. J'ai même été un peu surpris de l'essor des podcasts où je pense qu'il y a une fois par semaine maintenant on m'invite à faire un podcast et c'est pas quelque chose que je consomme, donc j'ai de la peine des fois à dire oui à tout parce que moi ça m'intéresse pas de l'écouter, donc ça m'intéresse un peu. Pas tellement d'aller parler non plus. J'ai l'impression que c'est aussi beaucoup quelque chose qui s'écoute dans la voiture. Moi, je n'aime pas conduire. Je suis très rarement en voiture. Donc, ouais, la forme audio me correspond assez peu, alors que j'ai beaucoup travaillé à la radio et à la télévision. Mais non, alors dans ma vie à moi, c'est pas très présent.
Alors justement, on remonte le fil du temps et de l'expérience de Thomas Wiesel, qui a quand même multiplié les expériences en dehors des frontières suisses. Hein. Ça va du Jamel Comedy Club sur Canal+, à l'émission Quotidien, la bande originale avec Nagui, aussi en France d'air. Vous, votre parcours vous a mené, Thomas Wiesel, sur les scènes du Québec, de Londres aussi, de Belgique. Ouais. Ça pose toujours la question, elle est un peu rituelle, mais quand même, il faut le dire. Est-ce qu'on gagne sa reconnaissance en tant qu'artiste suisse à l'extérieur des frontières? Est-ce que c'est un passage obligé?
Alors, j'ai l'impression que ça, c'est quelque chose qui a évolué un petit peu sur les 15 ans où j'ai été actif, donc où j'ai peut-être un avis. Au début, oui. Au début, j'ai vraiment eu l'impression qu'il y a eu un changement de regard sur moi. Quand, avec Marina Rollman, on est passé au Jamel Comedy Club tous les deux la même année, on a senti que tout à coup, ici, ça a suscité un intérêt et il y a eu comme un truc qui s'est réveillé de « Ah, mais si les Français les prennent, c'est qu'ils doivent être pas mal. » Alors que ça faisait quelques années qu'on était actifs sur les scènes ici, que ça se passait bien, que les médias ici s'intéressaient à nous. Mais pour le grand public, il a vraiment fallu ce petit déclic un peu bizarre de les voisins qu'on adore critiquer. on dit que ces deux humoristes suisses valaient la peine. Et donc, là, tout à coup, j'ai vu de plus en plus de gens s'abonner à mes réseaux, regarder mes vidéos, venir à mes spectacles. Et pareil pour Marina. L'année d'après, c'était Alexandre Cominec et Charles Nouveau qui ont fait pareil. Et donc, je pense qu'à cette époque-là, dans les débuts de la scène du stand-up en Suisse, il y avait ce besoin de validation externe qui a un tout petit peu, je dirais pas disparu, mais qui s'est pas mal dissipé maintenant, où il y a vraiment une scène nationale, en tout cas régionale, parce que c'est vrai qu'on a la barrière de la langue qui, pour le coup, est toujours aussi hermétique, mais en Romandie, il y a suffisamment d'humoristes pour que des petites scènes dans chaque ville vivent et qu'on puisse faire carrière sans sortir de la Suisse. Après, je trouve que c'est dommage de s'en priver si on a l'opportunité, parce que c'est aussi un formidable apprentissage. C'est aussi l'occasion de tester si on arrive à s'adapter à un autre public, si on arrive à écrire d'autres blagues, si on arrive à sortir un tout petit peu de sa zone de confort. Et donc, pour ça, je suis très content de l'avoir fait. Il s'avère que je me suis vite rendu compte que Paris n'était pas une ville où j'arrivais à être heureux. Et donc ça a mis fin un peu à mes ambitions françaises, parce que la France n'est accessible que via Paris, dans ses métiers artistiques. Et comme j'étais pas capable d'y habiter, ça m'a assez vite freiné. Mes amis qui s'y sentent mieux que moi ont persévéré et maintenant vivent des carrières formidables. Et je suis très heureux pour eux et aucunement jaloux, parce que pour moi, ma vie est nettement mieux depuis que j'ai arrêté d'y aller. Donc il y a pas de regret de ce côté-là. J'ai beaucoup appris. J'encourage toutes celles et ceux qui ont l'opportunité d'aller essayer, parce que ça permet de décider justement est-ce qu'on a envie, est-ce qu'on n'a pas envie. Et peu importe ce qu'on décide, ça va aider la carrière ici aussi. Donc ce serait dommage de s'en priver, mais je n'ai pas l'impression que c'est autant un passage obligatoire qu'avant. J'ai des collègues comme Nathanaël Rocha, Blaise Berzinger, Johan Provenzano qui sont beaucoup moins allés et que ça ne les a pas handicapés plus que ça ici.
Mais ça veut dire que Paris, c'était vraiment impossible. À un moment, Thomas Wiesel s'est dit non, mais là, je peux pas. Qu'est-ce qu'il y a ou qu'est-ce qu'il n'y a pas à Paris qui rend ça pas supportable ?
Alors, je vais faire la sociologie de bas étage, mais j'ai l'impression, en tout cas dans les humoristes que je connais, les humoristes genevois ont eu plus de facilité à s'adapter à Paris. Je pense que Genève a peut-être une proximité de mode de vie un peu plus grande avec Paris que Lausanne ou que d'autres villes en Suisse. Moi, ce qui me manquait, c'était un peu cette impression d'avoir le temps, d'avoir la place, d'avoir des moments de calme. J'avais l'impression que dès que je sortais de la chambre d'hôtel ou de l'appartement jusqu'à que j'y retourne, j'étais un tout petit peu oppressé. C'était dizaines de personnes au mètre carré, les transports bondés tout le temps, tout le monde n'a jamais le temps de rien, tout le monde est stressé, la pression était tout le temps là-bas. Alors, ce qu'on m'a beaucoup dit aussi, c'est que il faut s'habituer à Paris, il y a un style de vie différent, un rythme différent, et qu'après quelques semaines, on s'y fait. Il s'avère que moi, je n'arrivais pas à rester quelques semaines, et je n'avais pas tellement envie de rester quelques semaines. Ma carrière était principalement en Suisse, mes amis, ma vie aussi. Donc, je faisais des allers-retours. Et donc, à chaque fois, je ne dépassais pas ce sas de décompression qui faisait que je m'habituais à Paris. Donc, j'étais tout le temps un peu dans cette espèce d'agression d'arriver sur place. Et au bout d'un moment, les quelques contrats que j'ai eus là-bas, soit j'y ai mis fin, soit se sont terminés. Et donc maintenant, j'y vais juste pour jouer mon spectacle ou pour vendre des billets pour mon spectacle. Parce que ce qui est formidable, c'est que même si on joue à Toulouse ou à Bordeaux, il faut aller en parler à Paris. C'est un pays qui est structuré un tout petit peu différemment d'une autre. Mais non, je n'ai pas eu de plaisir à exercer ce métier à Paris. Pourtant, il y a des possibilités incroyables. On peut jouer 6, 7, 8 fois par soir. On peut vraiment être constamment sur scène, être constamment entouré d'humoristes, on est un coup de fil de tous les projets possibles. Moi, le nombre de projets où on m'appelle et je leur réponds que j'habite pas à Paris, c'est la fin de la conversation. Donc c'est vraiment le microcosme de l'humour qui vit là-bas, mais c'est pas une façon de bosser qui m'épanouissait. Donc j'ai choisi de privilégier mon bonheur à mon succès
et de faire du sport donc en terrain vaudois.
Exactement.
On arrive au terme de cette rencontre, Thomas Wiesel. 3 adjectifs pour votre spectacle Société Écran. C'est à vous de le présenter.
Alors, 3 adjectifs pour mon spectacle Société Écran. Je crois que je le donne à chaque fois en premier. C'est drôle parce que j'ai l'impression que si c'est autre chose que drôle, c'est plus ça mon métier. Moi, mon objectif premier, c'est de faire rire. Et si cet objectif n'est pas atteint, alors tous les autres sont superflus. Donc, drôle, je le dis. J'espère. En tout cas, c'est ce que j'ai essayé de faire. Ensuite, un petit peu questionnant. Je ne sais pas si c'est un mot, un néologisme ou un mot qui existe vraiment, dans le sens où on me dit qu'en sortant de ce spectacle, on se pose des interrogations sur son utilisation propre. Alors souvent, on juge la mienne, ce qui est le but de ce spectacle qui se moque beaucoup de moi, mais par ricochet, on se met à se demander ce qu'on fait soi-même. Et puis le dernier adjectif, j'essaie de trouver un adjectif pour dire que c'est du divertissement live. Je ne sais pas quel adjectif utiliser, vivant peut-être, pour dire que c'est devenu peut-être un peu plus rare de vivre des émotions en personne, de se rendre dans des salles de spectacle. Il y a eu les années pandémie où on a été forcé de basculer pas mal de choses sur des écrans et certains ont gardé l'habitude, mais pour moi, rien ne remplace ce qui se passe dans une salle, rien ne remplace une salle qui rigole en même temps, des inconnus qui se marrent à côté de soi et qui donnent envie soi-même de se marrer, ça débloque des endorphines et des émotions très très différentes. Donc c'est, pour moi, c'est crucial que ce spectacle, il n'y a pas d'écran, il n'y a rien d'électronique dedans. C'est vraiment pendant 1h20, on met le téléphone en mode avion, on se concentre sur une seule chose. Et ça, c'est devenu de plus en plus rare. Et je pense que ça fait du bien à la capacité d'attention et au cycle de concentration, de se concentrer sur un truc pendant 1h20 sans stimuli extérieurs. Donc c'est aussi comme ça que j'ai pensé ce spectacle, parce que ça me fait tout autant de bien à moi qu'au public qui vient. De ne pas être distrait et d'être 100% acquis à ce public-là pendant 1h20.
Si Thomas Wiesel avait un super pouvoir, ce serait lequel ?
Je pense que ce serait la téléportation, parce que...
C'est un reste d'Harry Potter, ça ?
Non, alors ce n'est pas du tout pour aller dans 8000 endroits et machin et voir ce qui se passe, c'est que je suis assez conscient de mon impact sur la planète, j'essaie de le limiter au maximum, et donc les moyens de transport polluent énormément, et j'essaie de prendre le moins possible de ce qui brûle du kérosène. Donc, je passe beaucoup, beaucoup de temps dans des trains. Donc, parfois, si je pouvais m'éviter des 14, 18 heures de trajet pour aller jouer ou pour aller voir des gens que j'aime qui habitent loin, ça me simplifierait la vie. Donc, ce serait vraiment un super pouvoir pour l'utiliser pragmatiquement et terre à terre.
Et là, concrètement, vous êtes venu en vélo ?
Là, je suis venu en vélo, électrique quand même, parce que je ne suis pas un grand athlète, mais là où vous êtes maintenant, j'ai testé différents moyens de transport, le vélo, c'est le plus simple pour l'instant.
D'accord, le message est passé. 24 heures dans la vie, dans la peau d'une autre personne, ce serait qui ? Ça vous tenterait ?
Ah oui, ça me tenterait beaucoup. Je pense que je choisirais Victor Wembanyama. Très, très original.
On l'aurait parié.
Oui, juste de voir ce que ça fait d'être bon dans un truc que j'adore faire et où je suis nul. Je pense que ça me ferait beaucoup, beaucoup de bien. Alors, il y a lui, et je vais faire un plus obscur, Luke Littler, qui est le champion du monde de fléchettes, qui a 19 ans, qui est un gars de Manchester, et qui est incroyable de précision avec des fléchettes. Et moi, j'adore jouer aux fléchettes, et je suis aussi évidemment nul. Donc, de voir ce que ça fait de pouvoir jeter un mini-truc au millimètre près, ça, je serais très, très curieux. Donc, je pense que c'est d'accomplir mes fantasmes de sportif.
Qu'est-ce qui vous fait peur, entre guillemets, ou qu'est-ce qui vous inquiète en avançant en âge, Thomas Wiesel ? On disait 15 ans déjà de parcours professionnel pour commencer cette rencontre.
Je crois que j'ai, à part la mort, que j'espère la plus lointaine possible, avec laquelle je n'ai pas encore fait la paix, rien ne m'inquiète dans le fait de vieillir. Je crois que c'est un privilège, je crois que je me suis mis sur des bons rails pour ne pas avoir peur d'où mène ce chemin-là. Donc je me vois tout à fait dans 15 ans, si les gens sont toujours contents de venir m'applaudir, continuer de faire ce métier, je me vois tout à fait dans la même vie, dans la même ville, avec les mêmes gens autour de moi. Et 15 ans de plus, j'ai des loisirs qui sont aussi les mots croisés, qui sont les fléchettes, qui sont des choses de vieux. Donc j'ai l'impression que je ferai un bon vieux et que ça ne me fait pas peur.
Société Écran, c'est donc le titre du spectacle de Thomas Wiesel qui va tourner jusqu'à la fin de l'année. Donc,
avril 2027.
Avril 2027, mais il reste une cinquantaine de dates.
Je crois que j'en ai fait 35 et donc il doit en rester 45, un truc comme ça.
Voilà, et vous trouvez tout sur le site de Thomas Wiesel pour l'automne, puisque là, ou alors on va jusqu'au Canada pour cet été pour aller vous voir.
Non, ne prenez pas l'avion pour ça. Venez dans la région.
Et les 30 dernières secondes, Thomas Wiesel, sont à vous. Alors vous qui avez fait beaucoup de radio, 30 secondes, vous voyez à peu près.
Oui, en 30 secondes, on a l'impression que c'est pas grand-chose. Des fois, on a 5 minutes pour faire des blagues. Les gens disent « Ah, ça passe très, très rapidement. » 5 minutes, c'est 3 pages à 4 pour moi. Donc 30 secondes, c'est une demi-page. Donc si j'avais préparé, j'aurais pu dire plein de choses bien. Mais comme j'ai rien préparé, je vous remercie juste. Et c'était un plaisir de discuter un peu. Et bah, si ça vous a donné envie de venir voir le spectacle, sachez que je suis beaucoup plus drôle sur scène qu'en interview.
Merci beaucoup Thomas Wiesel. Un dernier pronostic, la Coupe du Monde.
La Jordanie ne va pas gagner.